Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 6 novembre. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et nous sommes encore une fois...
Sans Marine.
Sans Marine, voilà, qui reviendra, je crois, la semaine prochaine. C'est Cinérama avec un quai, un train et ceux qui les font sauter. C'est un peu le sommaire d'aujourd'hui. Alors s'il y a un quai, c'est celui d'Orsay, le quai d'Orsay, film de Bertrand Tavernier qui sort sur les écrans. Et il se trouve que Bertrand Tavernier était au Cinémède la semaine dernière, donc on a pu le rencontrer lors d'une conférence de presse, on l'écoutera. Et puis, toi, tu nous parleras d'un train un peu fou.
Oui, et une autre adaptation de bande dessinée, d'ailleurs, puisque Quai d'Orsay
est aussi commun, ouais.
Une adaptation d'une BD. Donc, je vous parlerai de Snowpiercer, puisque j'ai raté, malheureusement, la séance de ce chef-d'œuvre, Thor 2.
Et puis, on parlera de ceux qui font sauter les trains, avec Les gens heureux, film documentaire de Gilles Perret, autour de la Résistance et du Conseil National de la Résistance, un film très intéressant. Voilà, donc deux interviews et puis une chronique, mais on commence avec Quai d'Orsay.
Cinérama sur Divergence FM.
Voilà, dernier film de Bertrand Tavernier, effectivement, comme tu le disais, une adaptation vient d'une BD, Quai d'Orsay, de Christophe Blain au dessin et d'Abel Lansac, qui en fait est Antonin Baudry, qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères, et il est question de ça hein, dans cette BD. Alors, il y a deux tomes, il se trouve que la production du film Quai d'Orsay, qui en est l'adaptation, a commencé seulement à partir du premier tome. Bertrand Tavernier n'avait pas encore lu le deuxième tome, mais il a quand même intégré en fait des éléments qui apparaissent dans le deuxième tome. Voilà, donc il va s'en expliquer, on les écoute, ça va durer un peu moins de 10 minutes et après on se retrouve pour ta chronique.
J'ai rendez-vous avec le ministre.
Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien.
Comment ça va, camarade? L'équilibre sur lequel a reposé le monde depuis 50 ans est rompu.
Broken.
J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Je vous confie ce qu'il y a de plus important, le langage.
On me l'a donné, elle venait juste de paraître, je l'ai lu, je crois, dans la soirée ou le lendemain, et le lendemain, j'appelais mon producteur en disant, il faut qu'on achète les droits, je sais comment faire un film avec ça. Et après, on a été, je crois qu'on a rencontré d'abord Christophe Blain, dessinateur, puis après... L'auteur, il était aux États-Unis. Je dis, je prends l'avion, je pars immédiatement, je le vois. Et je lui ai expliqué comment je voyais le truc. Et il a dit immédiatement d'accord. Et après, bon, je lui ai dit, je veux que vous soyez les co-scénaristes, Christophe et toi. Et je lui ai dit, je veux ajouter le discours au Conseil de sécurité. Je ne savais même pas qu'il était dans le deuxième tome. J'ai dit, je veux le premier plus le discours. Je veux changer complètement le personnage de Marina. Qui me semble le point faible de la bande dessinée, où elle est géniarde, elle n'arrête pas de se plaindre qu'il est en retard, que son boulot... Je dis, il faut faire l'opposé, il ne faut pas faire la femme à la traîne, il faut faire une jeune femme qui est l'égale d'Arthur, qui est vive, drôle, sexy, intelligente, qui le remet, qui le vanne, qui nous permet de prendre un recul aussi, à la fois sur lui, qui n'accepte et qui a un boulot. Donc j'ai dit tout de suite, j'aimerais bien qu'elle soit un stit. Et qu'elle soit confrontée à une France réelle. Pas un stit dans un arrondissement privilégié de Paris, dans banlieue. Voilà.
Alors il t'a donné quoi finalement? Le Honduras?
Pourquoi le Honduras?
Quand même, on y était deux fois en vacances, j'espère que tu lui as dit.
Ouf, bah non. Non, il m'a donné le langage.
Le langage? C'est quoi le langage? Tu veux leur donner des cours de diction?
Mais non, le langage, c'est ce qu'il faut dire. Mais un ministre, ça peut pas parler à tort et à travers. Hein. Je veux dire, un mot de trop, tu déclenches une crise internationale. Hein. Enfin bon, on m'expliquait tout ça, mais...
Et ça t'ennuie pas de bosser pour un mec de droite?
Mais de droite? Mais non, tu sais, son truc, c'est vraiment l'intérêt général. Hein. En plus, il a pris un dire cap de gauche, alors. Et puis, je crois qu'il va vraiment vite tenir tête aux Américains.
Oh, bah alors il est parfait, c'est Superman.
Et que je veux éliminer les... dans la bande dessinée, ce qui marche très bien, mais qui pour moi ne marche pas dans un film, qui sont les allusions à Star Wars. Je trouve que c'est... dans un film, ça devient explicatif, simpliste, de tout d'un coup... d'imaginer que le patron arrive et que c'est Dark Vador...
Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie.
Moi, je préfère rester sur le visage de Raphaël Personnage, qui l'attend. Il y a plus de choses qui se passent sur son visage que si on impose au spectateur un schéma.
Non, on n'y est pas du tout. Il y a encore beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Par exemple... il faut parler du conflit des Grands Lacs en Afrique. C'est explosif, cette affaire. Personne ne veut comprendre ce qui s'y passe.
Ah, mais c'est en page 10, monsieur le ministre.
Il faut en parler, je vous dis. Il faut structurer. Aujourd'hui, Arthur, il y a trois principes clés. Il faut le dire. Personne ne fait ce boulot.
J'ai gardé certains dialogues, qui étaient d'ailleurs très bons, et qu'on a quelquefois renforcés. J'ai essayé de transposer l'énergie. Pas les cadres. Moi, j'ai pas regardé. Les gens me disent que c'est un storyboard. Je ne travaille jamais. Je veux voir. Moi, j'ai besoin de voir comment les acteurs bougent en vrai. J'ai pas besoin d'avoir un cadre qui me prédétermine la façon dont ils vont bouger.
Tac, tac, tac. Unité. Tac, tac, tac. Efficacité. Tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre.
Il faut d'abord voir que par rapport à d'autres ministères, ce que m'a vraiment bien dit Hubert Védrine, que le ministère des Affaires étrangères est un ministère survolté, qui est en tension perpétuelle parce qu'il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, il risque toujours de se passer un incident qui, avec le décalage horaire, fait qu'il faut une réponse dans la nuit, à n'importe quelle heure. Il faut donc tout le temps être en état de veille. Ce qui n'est pas le cas de plein d'autres ministères. Je veux dire, avec, évidemment, le ministère de l'Éducation nationale, c'est très bien, mais je doute que Vincent Payon soit troublé à 1h15 du matin par une attaque de parents d'élèves ou la prise, tout d'un coup, l'assaut par le SNESUP d'une université, d'une chose comme ça. Ça a peu de chances d'arriver. Alors que des prises d'otages, des problèmes avec une entreprise française, un coup d'État peuvent arriver dans n'importe quelle partie du monde. Et à ce moment-là, un attentat, tout ça, il faut avoir une réponse immédiate, envoyer des gens.
Alors bravo Castella, bon début, il y a eu une fuite. Oh. Un journaliste s'est procuré une page de mon discours. Et bien sûr, ces baveux ont tout déformé.
Bien sûr. Et c'est pas moi qui avais le discours, je le découvre là. Monsieur s'est fait un plaisir de monter dans le bus des journalistes.
Non, mais vous quand on écrit un discours, on ne monte pas dans le bus des journalistes.
Je ne suis pas monté dans le bus des
pourquoi
des
pas leur faire une conférence de presse tant que vous y êtes.
On m'a envoyé
à cause
dans
de vous,
le
bus. On va tout refaire.
Ah, ben d'accord.
Voilà. Enfin, à cause de vous, ou grâce à eux. De toute façon, fuite ou pas fuite, c'était nul. Hein. Fallait tout reprendre à zéro.
Bon, alors allons-y, s'il vous plaît. Allons-y.
Écrivez-moi une vision claire à 20 ans sur le Moyen-Orient. Avec des mots simples pour une fois. Christian, répondez-moi à ce connard. Un paragraphe, grand maximum. Et Castella... Castella ! Un paragraphe, mais taillé à la serpe sur le rôle des Nations Unies. Allez au boulot. Bah tiens, Jean-Paul va vous cornaquer. Ça mettra un peu de hauteur et d'intelligence dans votre suppositoire géant.
Un peu de complexité. Bon.
Arthur, dès que c'est prêt, vous mettez ça dans votre mixeur. Avec des parois étanches, le mixeur.
Bien. Alors, on s'y met.
J'aime arriver à montrer la vérité dans la manière dont les gens travaillent ou vivent. J'ai envie de montrer ça. Comme la princesse de Montpensier ou comme ça commence aujourd'hui ou l'APA ou laisser passer sur la manière de travailler dans le... parce que c'est ce qui va, à mon avis, aiguiser la dramaturgie et les émotions. Vous savez, la vie, moi Jean Orange, dès mon premier film, me disait la vie est un remarquable scénariste et on a tort parfois de ne pas le solliciter. Je voulais comprendre pourquoi il y avait un chat dans la BD. Et pendant qu'on travaillait sur le scénario, je dis, tiens, ça c'est marrant, quand il arrive, Arthur, il y a un chat, alors, dans le bureau de Maupas. Et Antonin me dit, ah oui, mais c'est le chat de Maupas, enfin, c'est plutôt le chat du prédécesseur de Maupas. Il l'a gardé avec le mobilier et les chaussures de gym. Donc j'ai dit, mais attends, ça on l'écrit, ça. Ça, moi, c'est tout d'un coup, c'est une invention formidable. C'est hyper marrant, je trouve. C'est un ton. C'est en même temps, tout d'un coup, je suis très touché de voir qu'un un serviteur de l'État ne va pas dépenser un centime pour son ego, pour tout d'un coup changer l'ameublement, comme on fait tant de ministres, tant de présidents de région, là, qui claquent du pognon, qui est le pognon, l'argent public, simplement pour avoir un plus grand bureau, pour avoir des œuvres d'art, pour avoir des trucs. Non, là, ils ne dépensent pas d'argent et ils récupèrent tout, y compris le chat. Voilà, donc à la fois ça me fait marrer, je trouve que ça a du sens, c'est une idée que ça a du sens, et ça me donne une touche sur le personnage, hein. Et à la projection pour le cabinet de Laurent Fabius, il y a un type qui arrive vers moi et qui me dit « Ah oui, j'ai adoré le film, ça. » Alors, c'était moi le chat, hein. C'est moi qui ai laissé mon chat. Quand j'ai dû changer de poste, je ne pouvais pas prendre mon chat. Et il a accepté mon chat et tout, il a tout gardé. Voilà, c'est vrai, c'est entièrement vrai, ça.
Mais non, mais c'est pas bon, on l'avait déjà coupé dans l'ancienne version. Pourquoi c'est revenu dans la nouvelle?
Oui, sauf que la nouvelle est déjà devenue ancienne. On a remis dans la nouvelle les paragraphes qui étaient dans l'ancienne
Tiens, regarde, j'ai fait une synthèse de la deuxième partie sur les inspecteurs de l'ONU.
Mais comment ça, l'ancienne première? Mais je croyais que c'était toi, Caillou, qui devais la réécrire.
Non, moi, je fais la conclusion de la troisième partie.
Non, ça, faut le garder, parce que si tu coupes ça, après, tu peux pas enchaîner.
Attendez, là, je trouve deux fois le même paragraphe, là et là.
Deux fois seulement, t'as de la chance.
Voilà, adaptation donc d'une BD qui était déjà un succès, Quai d'Orsay. Donc il est question de Dominique de Villepin, hein, c'est un peu lui qui est donc représenté dans cette BD.
Et puis c'est certainement là, enfin, si mes souvenirs sont bons, la première comédie vraiment de Bertrand Tavernier. Il n'en a pas fait d'autres. Bon, on peut trouver Coup de torchon.
Oui, Coup de torchon quand même. Mais bon.
C'est quand même plus proche du roman. C'était un roman noir à la base.
Donc oui, c'est vrai. Mais qui est tourné un peu en comédie, mais une comédie douce amère. Voilà. Là, c'est une franche comédie, effectivement. Très rythmée. Parce que la BD aussi était bien découpée. Enfin, donc, il y a des choses qu'il a enlevées. On l'a entendu dans cette interview. Notamment le côté Dark Vador. Et par contre, eh bien, on peut parler aussi des interprétations. Nils Arestrup, en directeur de cabinet, est absolument extraordinaire. Alors, il nous a indiqué que pour avoir Nils Arestrup, en fait, il a dû, isoler en fait Nils Arestrup, qui avait demandé à ne pas déjeuner avec quiconque. Il voulait absolument être tout seul, s'isoler. Et puis Tavernier a dit, si ça pouvait nous faire une économie de 2-3 blagues par repas, c'était pas grave. Donc, très bonne interprétation de Nils Arestrup. Thierry Lhermitte, s'en sort plutôt bien. Enfin, voilà, c'est une comédie qui est plutôt bien menée. Après, je suis pas convaincu que ça apporte grand-chose par rapport à la BD. Ça, c'est un peu dommage, moi qui avais lu la BD. Voilà. Bon,
c'est souvent le cas. Donc, ouais. Malheureusement.
En tout cas, ça sort aujourd'hui, Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
À autre adaptation de bande dessinée avec le transpersonnage, là, qu'ils ont retitré, donc, qui sort sous le titre anglais, en fait, hein, Snowpiercer. Alors, la grande question, c'est que, est-ce que le cinéma si inventif de Bong Joon-ho, hein, qui avait fait The Host et Mother récemment.
Et Memories of Murder aussi.
Alors, est-ce que son cinéma allait-il s'affadir pour les besoins d'une coproduction internationale? La plupart des auteurs asiatiques qui émigrent en Occident se sont déjà heurtés aux contingences commerciales, dévitalisant souvent de façon spectaculaire leur art si singulier. Récemment, enfin, ou plus anciennement, hein, John Woo, Tsui Hark, Wong Kar-wai, Hideo Nakata et aussi... Cette année, Park Chan-wook, qui est aussi producteur d'ailleurs du transpersonnage, vont subir de telles contraintes qu'ils ont perdu un peu de leur créativité. Alors chez Bong Joon-ho, il y a en amont quand même un véritable désir. Le Coréen découvre dans une librairie de Séoul le transpersonnage, qui d'ailleurs officiellement n'a jamais été traduit en Corée, mais bon. Une BD culte en 3 tomes des années 80, signée donc Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Fasciné par le graphisme pointilleux et le récit assez passionnant, sorte de BD post-nuke dans l'esprit des métal hurlants, l'auteur de The Host contacte directement les auteurs français pour négocier une adaptation. Donc il serait dommage que Snowpiercer pâtisse d'ailleurs récemment de la sortie de Gravity, car nous sommes bien en présence du blockbuster le plus spectaculaire, intelligent, jouissif et décomplexé que l'on ait vu depuis des lustres, renvoyant tous les Elysium ou Oblivion aux oubliettes.
Passager, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place.
C'est pas encore le moment.
Tu penses que c'est quand le moment ?
bientôt.
Les flingues sont pas chargées!
Les précédentes révoltes ont toutes échoué à cause de ça.
Donc tu suggères
de s'emparer du train. Je suis pas un leader.
Curtis, c'est ton destin.
Alors, en 2031, une nouvelle ère glaciaire contraint ce qu'il reste de l'humanité d'embarquer dans le Snowpiercer, train gigantesque condamné à ne jamais s'arrêter. Au sein même de cette infernale machine de métal, une hiérarchie a été définie par le concepteur même du train, plaçant les pauvres à l'arrière et les nantis à l'avant. Logique, hein. Mais la révolte gronde et donc une poignée de reclus décide de passer à l'action et d'avancer dans le train. Les premières minutes laissent présager d'ailleurs un film plutôt conventionnel, légèrement inspiré de Soleil Vert. Mais rapidement, un vent de folie s'empare d'un film protéiforme, enchaînant les ruptures de ton, passant de la comédie burlesque à des scènes de baston ultra graphiques avec une aisance vraiment confondante. Hein. Bong Joon-ho, j'ai du mal à le dire en fait, hein, Bong Joon-ho, voilà, nous embarque dans un récit foisonnant, plus transgressif que subversif, parvenant à magnifier une histoire quand même simpliste de lutte des classes, grâce à une liberté de ton constante et une façon presque suicidaire de tourner le dos à toutes les conventions hollywoodiennes. Impossible ou presque de deviner qui va survivre ou mourir dans cette véritable fuite en avant, où tout se passe à droite et à gauche du train, on ne revient jamais en arrière. Le groupe de rebelles franchit chaque compartiment comme une nouvelle étape, alors qu'on aurait pu craindre un dispositif un peu issu du jeu vidéo, où chaque wagon comporte une action distincte. Le génie du cinéaste est un peu de dépasser cet aspect conceptuel d'un système de niveau à dépasser en recréant des univers singuliers, tant d'un point de vue esthétique que narratif. Le cinéaste est vraiment un auteur de la rupture, du décalage constant. On a l'impression qu'il cherche constamment à surprendre, secouer le spectateur, un peu comme un Takashi Miike, mais en plus, je dirais, plus grand public, hein, d'une certaine manière. Cette manière de dynamiser le récit, de le tordre ou de le faire éclater apporte étrangement une consistance et aussi une distance à une réflexion politique qui peut paraître comme ça manichéenne. D'ailleurs, la séquence la plus stupéfiante du film est l'arrivée du groupe de résistants dans une salle de classe. Les couleurs chatoyantes des décors flash et un peu Ikea brillent comme dans une sitcom sous acide. L'institutrice enceinte, tout sourire, récite sa propagande fasciste à des enfants déjà instrumentalisés et le tout se termine par une fusillade explosive bravant toutes les limites du politiquement correct. C'est la scène la plus étonnante du film. Elle arrive comme ça, mais... Et puis elle est assez cohérente avec l'ensemble en plus. Alors, la mise en scène aérienne, tout en mouvement de caméra énergique et scandée par un montage virtuose, porte un récit de plus en plus passionnant au fur et à mesure que l'action progresse. Et pour se terminer par d'ailleurs un épilogue aussi absurde que sombre et surtout d'une lucidité incroyable sur l'équilibre de l'espèce. Avec tout de même, bon, une petite note d'espoir en conclusion que je ne dévoilerai pas, puisque le film va rester quand même à l'affiche un bon moment.
On l'espère, oui.
Voilà. Et alors le cinéaste évite aussi un des défauts qui est quand même récurrent des coproductions, c'est le casting un peu indigeste, avec un défilé de stars qui sont un peu désimpliqués, parlant tous des langues différentes. Au contraire, ici, les comédiens sont tous épatants. Chris Evans, c'est parfait en anti-héros. Song Kang-ho, c'est son comédien fétiche, et il est toujours aussi génial. Sans oublier, il y a l'extraordinaire Tilda Swinton, qui est méconnaissable sous ses multiples prothèses. Elle interprète une sorte de bras droit du tyran avec une folie, une exagération transmettant un plaisir instantané. Et puis enfin, Ed Harris qui apporte sa touche, sa classe habituelle. L'interprétation est vraiment parfaite.
Ah, c'est la voix de Houston dans Gravity, Ed Harris, non ?
Oui, je crois.
Oui.
Donc, encore un point commun entre les films. Donc voilà, Snowpiercer, pour moi, c'est une petite merveille, hein, mêlant un petit peu un discours, un art bien senti, des séquences d'action vraiment bien chorégraphiées. Il y a une poésie comme ça, discrète, comme des petits haïkus. Puis un humour surtout décapant, enfin le même que l'on retrouvait déjà dans The Host.
Et même dans Memories of Murder.
Et dans Memories of Murder.
Qui était vraiment une critique du cinéma américain, latente. Hein,
et je pense qu'il est très très fort. Hein. Un cinéma coréen qui est un peu sur la pente descendante aujourd'hui, et c'est peut-être le cinéaste le plus fort de Corée.
Moi je pense. En tout cas, ça donne très envie d'aller voir le transpersonnage. Alors il est en version française avec des grands écrans au Gaumont, et puis il est aussi
au diagonal
en VO, version originale sous-titrée.
Comme il n'y a pas de 3D, allez voir en version originale.
Ouais, c'est mieux.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Il est Il est aussi question de train et de résistant pour Les Jours Heureux, documentaire de Gilles Perret. Alors Gilles Perret, il y a deux ans, il avait sorti De Mémoire d'ouvrier, qui était déjà un documentaire que moi j'avais beaucoup apprécié, hein, sur bien comment la classe ouvrière avait changé et comment bien finalement petit à petit tout le monde se rangeait dans le politiquement correct et les luttes s'estompaient. Et bien là, il revient à l'assaut avec le Conseil national de la résistance. Alors entre mai 43 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, 16 hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil national de la résistance, intitulé magnifiquement Les Jours Heureux. Donc le titre fait référence à ce sous-titre, en fait. Et bien le Conseil national de la résistance et toutes les mesures ont été appliquées par le général de Gaulle ensuite à la libération, hein, pendant les deux ans qui ont suivi la guerre. Ça a donné la sécurité sociale, ça a donné les congés payés et ainsi de suite. Gilles Perret nous parle de Les Jours Heureux.
Abattre un homme en plein jour, en pleine ville, à visage découvert, à bout portant, c'est une image qu'on ne peut pas effacer. Et il faut vraiment que vous soyez décidés à changer les choses de ce monde en disant « ça n'existera plus jamais ».
Alors Gilles Perret, après De Mémoire d'ouvrier, qui est un documentaire que vous avez réalisé donc il y a à peu près un an et demi et qui traitait de la conscience ouvrière qui s'étiolait peu à peu, là vous revenez avec un autre sujet. Là, c'est cette fois-ci, il est question de résistance, du Conseil national de la résistance. Est-ce que là, il y avait un peu plus d'urgence, j'allais dire, parce que certains acteurs, mine de rien, hein, de cette résistance et de cette période de la guerre, bien, ont peut-être disparu.
Ce qu'il faut dire, c'est que cette histoire du Conseil national de la résistance, à laquelle on doit quand même énormément de choses encore aujourd'hui, comme la sécurité sociale, les retraites par répartition, la liberté de la presse, le statut de la fonction publique, EDF, enfin énormément de choses dont on bénéficie tous les jours, eh bien, cette histoire-là, elle n'a jamais été racontée. Et donc il y avait déjà urgence de la raconter, parce que c'est pas normal qu'on ne connaisse pas cette histoire-là. Puis la deuxième urgence, effectivement, c'est l'âge des gens qui ont participé à cette aventure, cette belle aventure. Et déjà, dans les personnes que j'ai interviewées, il y a déjà deux personnes qui sont décédées depuis, Raymond Aubrac et Stéphane Hessel. Donc ça montre le degré d'urgence. Ce sont des personnes qui ont pratiquement tous plus de 90 ans, mais c'est pas un film non plus que d'histoire, c'est un film déjà, eux sont jeunes dans leur tête, c'est aussi un film qui pose la question de savoir où on en est aujourd'hui par rapport à tout ça et où on pourrait aller avec les valeurs qui étaient portées à l'époque par le Conseil national de la Résistance.
Les réformes qui ont été faites pendant ces deux années-là, c'est des réformes qui ont conditionné la vie de la France pour longtemps.
Ils étaient persuadés tous que ça servirait à quelque chose.
Oui, il fallait être idéaliste, il fallait même être utopiste.
Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mouvements quand même dans votre documentaire. Il y a d'abord tout ce qui s'est passé, comment il s'est constitué ce Conseil national de la résistance, et tout ça c'est un rappel historique qui est très très bien fait avec justement les détails des personnes qui l'ont vécu. Donc il y a cet aspect là et puis il y a un autre aspect où là vous interrogez des hommes politiques modernes. Pour vous c'était essentiel d'avoir un éclairage?
C'est pas un éclairage qu'il donne, parce que, enfin, comment on pourrait décrire ça? En fait, je suis allé voir les gens qui sont assez promptes à mentionner la résistance et le Conseil national de la résistance dans leur discours politique. Et donc, je suis allé leur demander en quoi ils s'estimaient légitimes de mentionner ce programme par rapport aux actions qu'ils étaient en train de mener ou qu'ils sont censés mener par rapport à leur programme politique. Donc, c'est en ce sens que j'avais envie de les questionner. Et puis aussi, dans le Conseil national de la résistance, il y avait des mouvements politiques, des partis politiques. Et donc, je suis allé voir ceux qui s'estiment être descendants de ces partis politiques-là, voir quel héritage ils ont et voir si ce programme les inspire encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est important parce que faire un film d'histoire que pour l'histoire, c'est bien, mais l'histoire qui questionne pas le présent et le futur, pour moi, ça sert pas à grand-chose. Donc il faut bousculer un petit peu, sachant que les valeurs qui étaient portées par le Conseil national de la Résistance, c'est des valeurs qui sont tout à fait actuelles. C'est tout simplement un programme qui voulait remettre l'intérêt général devant les intérêts particuliers. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a complètement pris le contre-pied. Et donc, de mon point de vue, il y a urgence de poser ce type de questions-là, parce que à force de privilégier la réussite matérielle, l'individualisme et que la finance ait pris le pouvoir par rapport, y compris aux responsables politiques, j'ai peur que ça finisse mal l'histoire. Donc ça m'intéresse de poser ce type de questions aujourd'hui.
Ce rêve nous vient, pourquoi ne pas le dire ? Du Conseil national de la résistance.
Du Conseil national de la résistance.
Du Conseil national de la résistance.
C'est quoi alors, le sujet maintenant ?
Alors on y va.
Le Conseil national de la résistance, alors, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ce que montre alors l'histoire du Conseil national de la résistance et puis votre documentaire, c'est qu'effectivement il y a eu de nombreuses discussions, alors des rapports de force qui sont politiques, et à cette époque-là on sait que le Parti communiste était puissant, mais qu'il y avait aussi les socialistes, il y avait eu déjà la scission, enfin que ça devait être de sacrées discussions. Il y avait aussi le général de Gaulle dont il est question, et le général de Gaulle qui pense que politiquement c'est très bon effectivement d'appliquer tout ce qui a été décidé par le Conseil national de la résistance, parce que si on ne dit pas aux résistants il se passera ça après, quelles raisons ils ont de se battre ?
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut rappeler, c'est que l'histoire de la résistance, on l'a toujours racontée autour de ces faits d'armes. On n'a jamais raconté la pensée politique qui était derrière. Et ce film-là, il raconte ça. C'est-à-dire qu'on ne se battait pas pour rien, comme vous le dites. Et donc, effectivement, le général de Gaulle, il a bien compris que s'il voulait que l'ensemble de la résistance se range sous ses ordres, il fallait lui en lâcher, lui donner des gages sur les questions sociales, sachant que la résistance intérieure était très majoritairement de gauche. Donc du coup, le général de Gaulle à la Libération accepte d'appliquer le programme du CNR, enfin les ministres, parce que pas lui, mais il laisse passer les choses, tout simplement parce que le rapport de force, encore une fois, n'était pas en sa faveur sur ces questions-là. Et on voit bien que dès la Libération, toutes les grandes mesures sociales qui sont passées, ce sont les communistes et les ministres communistes qui les ont mises en application. Mais cette histoire-là n'a pas trop été raconté, parce qu'en période de guerre froide, c'était pas tellement tendance de raconter ça, quoi.
Un homme disait, Maxime Gorki, ça sonne fier. Soyons fiers d'être des hommes.
Et pour nous, la résistance passée et la résistance future, c'est... Il y a une logique de continuité.
Ça a été compliqué de faire ce documentaire. Alors vous faites parler deux historiens, vous faites parler forcément des acteurs, et on l'a dit, il y en a deux qui ont disparu pendant le tournage. Vous faites donc intervenir des hommes politiques, et puis des archives. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué finalement ?
Je ne vais pas faire le malin, mais c'est un film qui est quand même compliqué, parce que l'histoire, c'est pas une histoire simple où il y a les bons, les méchants, c'est une histoire qui évolue au cours des mois, c'est plein de subtilités, donc, et avec une réalité historique qu'on ne peut pas manipuler, donc il fallait être le plus précis possible sur ces questions-là, donc c'est pas un film qui a été simple, mais qui est fait avec de belles personnes, et c'est une belle histoire, parce qu'elle se finit bien, dramatiquement pour beaucoup, mais elle se finit bien avec ce magnifique programme qui est mis en application. Et donc du coup, il y avait tout pour faire un film qui soit un film aussi, c'est-à-dire avec une place pour l'émotion. Il y a des moments qui sont assez émouvants. Il y a une force de persuasion et une vitalité, un optimisme de la part de ces anciens qui sont. Ça fait plaisir à entendre, quoi. Donc ça c'était un vrai plaisir de travailler. On avait plutôt trop de matière, trop de choses à dire, et donc du coup on se fait à chaque fois mal quand on enlève des moments qui nous paraissent très bien et très forts. Mais bon, voilà, donc c'est les archives, on en avait, mais on n'en avait pas énormément, mais pour cause, hein. On se filme, enfin il n'y avait pas de webcam dans la salle de négociation du Conseil national de la résistance, donc on n'avait pas grand chose, mais quand même il y a des beaux restes. Il y avait pas mal d'archives à la Libération, et puis il y a des témoignages des anciens qui avaient été quand même recueilli dans les années 60-70, que j'ai pu utiliser pour agrémenter un petit peu le film, puis donner la force et du contenu quand même.
Et voilà donc Gilles Perret, Les Jours Heureux, documentaire qui sort aujourd'hui. J'espère que son propos vous a convaincu d'aller voir ce film. Alors, juste ce qui est dommage, alors, c'est qu'il fasse un peu trop référence aux hommes politiques actuels, parce qu'évidemment, on sait tout de suite qu'ils ne vont pas se réclamer du Conseil national de la résistance. Et puis, alors, il y a la musique qui est, enfin le piano, je me dis que là, c'est plus possible en 2013 de mettre un piano aussi lancinant. Voilà. Mais à part ces petits détails, je vous recommande ce documentaire.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Nous passons à l'agenda avec ce soir le début du Ciné-Club Jean Vigo. Demain soir, pardon, jeudi, le début du Ciné-Club Jean Vigo avec la reconstitution. Ce sera le thème de cette saison. Et il y aura Amarcord de Federico Fellini. C'est à 20h. À l'Utopia, c'est la case de l'oncle Spock. Je suppose que ça remplace l'absurde séance, Manu.
Oui, c'est la nouvelle absurde séance.
Voilà.
C'est des jeunes étudiants de Paul Valéry qui reprennent le flambeau. En fait.
Voilà. Parce qu'avant, bon, bah, voilà,
c'était moi avant.
Toi, Manu. Donc là, il y aura Panique sur Florida Beach. de Joe Dante. Voilà.
Excellent film.
Excellent film, en VO sous-titré. Et puis, dimanche 10 novembre, toujours à l'Utopia, il y aura La science achetée. Qu'arrive-t-il aux scientifiques lorsqu'ils se confrontent au désir mercantile des industriels? Vous le saurez. C'est dans le cadre du festival Science en Bobine. Et il y aura en plus deux invités à l'issue de la projection. Et puis, on termine avec le mardi 12 novembre au Diagonale à 20h15, Gangs of New York de Martin Scorsese. Moi, un film que j'apprécie énormément. Séance présentée par une professeure donc de cinéma de l'université Paul Valéry.
En présence de Leonardo DiCaprio ?
Non.
Dommage.
C'est Cinérama qui termine.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, il sera question du film des frères Cohen. Et puis après, on verra. Et sinon, 24 secondes, c'est quoi ?
C'est Claudia Cardinal.
Voilà, donc les films de Claudia Cardinal et les musiques qui l'entouraient.
Film italien, je pense, pour la plupart.
Évidemment. À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.